102.1.
10h41 minutes dans le Point de Max à Boulevard et vous l'entendez dans cette nouvelle image sonore qui est, ma foi, encore une fois, de toute beauté. Merci à Tommy Fontaine qui doit avoir travaillé fort là-dessus dans les derniers jours. Oui, le Point de Max avec moi-même toujours, mais bien accompagné de Catherine Bachin. Je dois dire que j'aime beaucoup le résultat de notre collaboration jusqu'à maintenant. Kat fait
fait 42
minutes de bonheur et espérons que ce soit encore bien des minutes de bonheur dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui sait, les prochaines années. On poursuit le show en parlant d'un autre dossier chaud de l'actualité aujourd'hui. Puis c'est drôle parce que, tu sais, il y a des intervenants des fois, des invités avec qui tu vas reparler souvent, puis que tu commences à connaître un peu. Puis à toutes les fois que je vois des nouvelles sur les enveloppes budgétaires dans les écoles, ben je pense à André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Parce qu'avant la nouvelle d'il y a quelques semaines sur le fait qu'on allait rendre ça un peu plus lousse, là, puis rendre ça moins serré, donner plus de liberté au centre de services scolaires en lien avec ces enveloppes-là budgétaires. Ben là, je me suis rappelé, André Bernier m'en parlait souvent de ça, le fait que hey, ça manquait de liberté. Puis je donnais l'exemple tantôt avec un exemple complètement ridicule, mais pour imaginer un peu, mettons que tu as une enveloppe de 10 millions, puis que c'est écrit que cette enveloppe-là, c'est pour peinturer un mur en rouge. Ben, c'est 10 millions pour peinturer un mur en rouge. Mais si toi, tu veux pas peinturer de mur en rouge, c'est un 10 millions auquel tu ne peux pas toucher. Et là, ce matin, dans l'actualité, Radio-Canada arrive avec un texte. Éducation, une petite révolution qui fait peur à plusieurs sur, justement, cette nouvelle-là, les dépenses qui pourront être faites de façon un peu plus lousse par les centres de services scolaires. André Bernier, première des choses, bonjour.
Bon matin.
Pour vous, c'est toujours une excellente nouvelle pour l'ensemble du réseau scolaire, là, malgré ce titre-là. Puis, en lisant le texte, le dossier, on voit que oui, il y a certaines personnes qui ont des petites inquiétudes, mais généralement, ça reste positif, là.
J'étais à la même place. C'est encore positif, c'est encore une bonne nouvelle pour nous. C'est sûr qu'il y a des détails qu'il faut attacher. On ne sait pas qu'est-ce que chaque enveloppe va contenir. Donc, est-ce que ça va être un peu farfelu? Est-ce que ça va être des regroupements qui vont avoir du sens? Ça, c'est à définir. On va le voir avec le temps. Mais c'est pas des fous qui travaillent au ministère, là. On devrait avoir des choses qui ont du sens là, par rapport à ça. Par contre, il y a tout le bout où les CRR, là, le comité de répartition des ressources, vont devoir travailler fort pour faire descendre ça dans les écoles et que l'attribution se fasse de façon pour répondre réellement aux besoins des élèves. Ça, c'est un bout là, qui est à travailler et on n'a pas encore là, tout le fine-tuning, excusez l'expression, là, par rapport à ça.
Et le fin détail, ouais.
Ce comité-là de répartition des ressources, c'est au sein du gouvernement ou des centres de services scolaires?
Non, c'est au sein des centres de services scolaires. Il y en a dans chaque centre de services scolaires. Puis ça, il y a du personnel, il y a des directions qui sont là avec le centre de des employés du centre de service pour justement assurer la meilleure répartition possible et que ça réponde aux besoins des milieux des élèves.
J'ai fait une image tantôt avec l'enveloppe pour peinturer un mur en rouge. Mettons pour mettre les gens dans le contexte avec des exemples qui peuvent mieux représenter la réalité puis moins faire d'images. André Bernier, pouvez-vous nous en donner de ces exemples-là?
Bien, votre image était très bonne. Là. À place de dire un mur rouge, si j'avais voulu faire le plafond, j'aurais pas pu. C'était comme ça. Je donne l'exemple. Dans l'école où je suis, j'ai pas de besoin alimentaire. J'ai une clientèle très aisée. Là, tu sais que réellement, là, les sous pour l'aide alimentaire, on n'aurait pas besoin. Ben, je peux pas m'en servir à autre chose que ça.
Ça, c'est concret. Vous le vivez pour vrai. Là. C'est
oui,
un
oui.
vrai exemple.
Et ça va demeurer quand même comme ça parce que ça, c'est un budget qui vient du fédéral. Fait que l'exemple est plus ou moins bon. Prenons l'exemple des sorties scolaires en milieu culturel. Mon école est très, très loin. Je n'ai pas accès à des choses à proximité. L'enveloppe n'est pas suffisante ou je vais avoir seulement un groupe qui va y aller puis je vais en avoir 18 autres qui ne pourront pas rien faire. Bien, je ne peux pas me servir de cet argent-là pour dire « à la place, je vais faire venir la personne à l'école. À la place, je vais faire une autre activité avec ça. »
OK, vous pouvez même pas en ce moment dire « hey, à la place de sortir, on va faire venir la personne à l'école. »
Non.
Il faut absolument que les kids sortent de l'école.
Sortie scolaire en milieu culturel.
Ouais.
Oui, je vois votre visage, les gens ne le voient pas, mais oui, effectivement, il y avait des dichotomies comme ça là, dans le discours. On l'a plaidé fort pour les élèves parce que tout le monde au niveau culturel, là, ils ont travaillé fort pendant la pandémie pour se réinventer et ils avaient la possibilité de venir nous voir dans les écoles, mais on voulait favoriser les sorties en milieu culturel. Donc là, avec la nouvelle enveloppe, là, on devrait avoir un peu plus de marge de manœuvre par rapport à ça pour mieux répondre aux besoins.
Est-ce que je comprends que l'enveloppe était parfois prise au niveau du centre de service scolaire et que ça ne descendait pas jusqu'à l'école?
Il y a des mesures qui arrivent au niveau du centre de service scolaire et que le CRR devait dire « OK, on répartit de telle façon ». Il y en a qui rentrent directement au centre de service et c'est le centre de service qui la gère sans le CRR. Puis il y en a qui descendent directement jusqu'à l'école, okay, où là, c'est l'école qui la gère. Mais le niveau de décentralisation ou de centralisation des centres de service est très différent d'un centre de service à l'autre. Il y en a où tout s'en va directement dans les écoles, les directions sont gestionnaires de leur école avec tous les budgets disponibles. Dans d'autres centres de service, ça reste centralisé. Les écoles doivent faire des demandes. Une fois que la demande est acceptée, l'argent descend.
Et pourquoi ce n'est pas uniforme à tous les centres de services scolaires?
C'est des modes de fonctionnement qui sont propres aux centres de services, aux directions générales qui étaient là, qui sont là. Des fois, c'est des traditions.
Okay.
Ça peut être changé, ça. Ce n'est pas quelque chose qui est coulé dans le béton.
Parce que j'ai comme un souvenir là, quand il y a eu la grève des enseignants, là. Où est-ce qu'à un moment donné, des enseignants étaient allés mettre le nez au centre de service scolaire puis qui ont vu à quel point les bureaux étaient beaux puis que moi, c'était... Eux autres avaient de la climatisation puis que c'était propre alors que leurs écoles, à eux, tombent en décrépitude. Et là, il y avait vraiment un malaise. Puis là, ils ont dit, coudonc, notre argent, l'argent va où? Alors que moi, j'ai personne pour m'occuper des élèves.
Je vous dirais que... Oui.
Ça fait-tu... Y a-tu un lien? Avec
non.
Ce genre d'enveloppe-là ou pas du tout?
Je suis embêté de répondre oui ou non par rapport à ça. Parce que on a des écoles qui sont réellement top-notch, là, t'sais, côté là, infrastructure, côté développement, comment ça s'est fait. Par contre, on en a d'autres. Il y a eu des reportages dernièrement là, qui font pitié, puis pas à peu près là, par rapport à ça. Et c'est pas tous les centres de services qui ont la grosse air climatisée, la totale là, par rapport à ça. Mais... La question est bonne. Il faut réellement se poser la question. Comment un centre de service peut avoir l'air climatisé, des beaux bureaux neufs, tout est correct, puis que les écoles tirent le diable par la queue pour arriver à avoir des ventilateurs dans les classes parce qu'ils montent à 32 degrés là, quand il fait chaud, là.
Une des craintes qui est soulevée, puis on reste dans les centres de service scolaire, c'est « OK, on décentralise du gouvernement, on va donner beaucoup de pouvoir aux centres de service scolaire ». Mais les écoles, dans certains cas, puis ça rejoint un peu ce que vous disiez, les écoles, on n'est pas sûr à 100 % si l'argent va bien se rendre, puis si ça va bien se rendre de la bonne façon. À un moment donné, ça se peut-tu qu'on se rende compte que hey, la décision, c'est peut-être encore plus de liberté aux écoles, d'en enlever au centre de service scolaire aussi? Là.
Bien, avec le CRR, comme je disais, là, il y a des directions qui sont là. Eux autres, là, excusez le terme, mais ça va être comme les chiens de garde de ça, de dire cet argent-là, elle doit redescendre et elle doit redescendre de cette façon-là. Ils vont avoir un rôle primordial à jouer par rapport à ça pour s'assurer qu'on ne vient pas juste de changer le palier de centralisation. Là. Si c'est ça, on vient de donner un beau coup d'épée dans l'eau, mais le but du gouvernement actuellement, de ce qu'on entend, c'est pas juste de changer de palier, c'est réellement d'enlever les menottes que les directions avaient là, par rapport à l'utilisation de leur budget.
Puis à quel moment, parce que vous le disiez ça, d'entrée de jeu, il reste des ficelles attachées, tout ça, les budgets pour les écoles, ça se fait quand, ça?
On est dedans. On est en plein dedans à deux pieds.
Les ficelles, il faudrait comme les attacher vite?
Oui, il faut les attacher vite, mais il y a toute l'étude des crédits qui n'est pas encore faite. Habituellement, là, nous, on commence avec des bases qu'on connaît, qu'on se dit, il n'y aura pas de changement majeur là, par rapport à ça. Donc, actuellement, là, c'est la planification d'effectifs qui se fait. J'ai besoin de combien de temps de psychologues, d'orthophonistes, de TES en service de garde? Il y a des choses qu'on sait déjà. Les inscriptions de service de garde, c'est fait depuis février, grosso modo. Donc, on sait qu'à ce temps-ci, là, la clientèle qu'on va avoir à peu près l'année prochaine. Donc, on commence à se planifier ça. C'est le premier bout. Personnel de soutien professionnel. Enseignant, c'est tel que tel, ça va avec le nombre d'élèves qu'il y a dans l'école. Fait que ça, c'est plus facile. Mais on commence, ça, c'est le premier bout. Après ça, une fois qu'on va avoir fait ça, là, on va attacher les sommes. OK, qu'est-ce qui me reste comme argent pour finaliser mon budget? Parce qu'à peu près 85 % du budget d'une école va sur les salaires.
Fait que c'est pas la fin du monde qu'en ce moment, on n'ait pas toutes les ficelles attachées au niveau des enveloppes budgétaires, de quelle façon ça va être réparti.
déjà là, les moves qui ont été faits, on est en avance sur d'autres années. Je vous rappelle, l'année passée, juin, on revirait tout de bord, puis les directions ont travaillé fort, et on réussit à avoir des budgets pour le début de l'année. Mais là, on est sur la bonne voie, on est dans un timing qui est adéquat.
Kat, t'as fait le saut sur la proportion.
Ben, à chaque fois, moi, ça me fait toujours pogner un 2 minutes là, quand il est question de 85%, parce que ça ressemble un peu à ça aussi du côté de la santé. 85% du budget va en salaire. Mais c'est parce que ça prend des équipements aussi. Ça prend de l'entretien du bâtiment. Ça prend des ressources pour les élèves. Peut-être que ça, tu sais, les ressources orthopédagogues et tout ça, ça entre dans le 85%. Oui. Mais reste qu'il y a beaucoup aussi là, dans ce que ça prend pour tenir une école. C'est sûr que le personnel est très, très, très important, là. Mais à chaque fois, quand moi, je sais que l'enveloppe, 80%, c'est juste des salaires, je trouve qu'il n'en reste pas beaucoup pour, après ça, créer un milieu...
adéquat?
Ouais.
Il n'en reste pas beaucoup. C'était très, très, très franchement, là, pour avoir fait des budgets là, pendant là, 25 ans dans des écoles, là, la part qu'on a à répartir, là, on se casse... Oui, on se casse beaucoup la tête, justement, parce que la part n'est pas grosse, mais... on n'a pas beaucoup à répartir. T'sais, c'est pas 500 millions qui nous restent dans une école. Là.
Non, on
parle en termes de dizaines, centaines de milliers selon la grosseur de l'école là, qu'on a à répartir. Fait que, si je le donne pas dans tel poste, ben, il va aller dans tel autre poste. Notre carré de sable n'est pas si grand que ça. Là. Mais l'important, c'est que chaque école puisse avoir la liberté de bien répondre aux besoins des enfants. Les nouvelles mesures, c'est ça que ça nous donne. T'sais, oui, j'entendais des syndicats dire « ben c'est plate parce qu'il y a peut-être des écoles où ils vont couper, ils vont enlever. » Mais si le besoin, c'est pas pour un type de personnel, mais pour un autre type de personnel que le besoin est là, ben c'est important d'avoir la marge de manœuvre.
Parce qu'un exemple, là, dans le concret, là, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, dit « ouais, on a peur que la culture soit délaissée au profit du sport. » Ce que vous nous dites, c'est que oui, ben peut-être que dans une école, si c'est plus, entre guillemets, payant de mettre un peu plus d'argent dans le sport, ça se peut qu'on délaisse un peu la culture. C'est pas une mauvaise chose pour autant.
Mais pourquoi que l'un faudrait qu'il soit en opposition à l'autre?
C'est une autre bonne question.
Faut pas voir une opposition, faut voir une complémentarité, moi, je pense. Là, ouais. Actuellement, c'est que l'enveloppe dans laquelle elle se retrouve, ils seraient ensemble. Est-ce que ça va être la description définitive? On ne le sait pas encore. Mais dans l'exemple qui nous a été donné, ils étaient regroupés dans la même enveloppe. Si un milieu a effectivement une plus-value à mettre plus de sport, puis que ça peut donner un coup de main, ben je pense que c'est réellement le besoin du milieu. Là, on est sur des besoins très fine-tuning, là, comme je disais, là, des petits besoins fins, mais en même temps, si j'ai besoin 2 heures de plus de TES par semaine pour faire suivi d'un élève, deux élèves, versus avoir 1 heure de parascolaire de plus, puis que je suis capable d'avoir ce jeu-là, bien tant mieux, parce que ça va réellement répondre aux besoins.
Je pense que ça fait bien le tour pour ce qui est des changements au niveau de la flexibilité dans la gestion des enveloppes budgétaires pour les écoles. André Bernier, tant qu'à vous avoir, la presse rapportait hier les résultats d'une enquête sur le décrochage scolaire chronique. Puis je suis comme resté sur ma faim un peu parce que ce que je me rends compte, c'est que il y a un paquet de causes. On n'est pas vraiment capable de pointer un élément du doigt alors que c'est un problème qui est important. Puis si tu as de la misère à établir les causes les plus importantes, ben après ça, comment veux-tu trouver des solutions? Comment on va en arriver à bout de ce problème-là de décrochage scolaire? Puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas beaucoup en passant. Là. Je sais que Gabriel Nadeau-Dubois, du côté de l'Assemblée nationale du Québec, aujourd'hui, va présenter un petit document. Là, en fait, c'est un livre carrément sur l'école à 3 vitesses, particulièrement pour les jeunes garçons qui, selon lui, sont encore plus défavorisés par ce système-là d'école à trois vitesses. Mais pour revenir là, au décrochage scolaire chronique, c'est un gros problème.
C'est un gros problème. Je vous dirais que je serais curieux d'avoir des chiffres provincialement parlant. Là. Il y a des centres de services qui font un suivi là, à l'aide de leur SARCA pour voir justement là, les élèves qui décrochent, pourquoi. T'sais, c'est sûr qu'on est en réaction dans ce temps-là. On n'est pas proactif à mettre des choses en place. L'article mentionne là, une des choses importantes, c'est la relation prof-élève. ben, je devrais dire même personnel élève. Oui. Tant que l'élève a une personne là, de confiance dans l'école, souvent, ça va les empêcher de décrocher. Donc ça, là, la relation est très, très importante. L'article disait, là, le prof là, que l'élève fait « wow », même s'il y en a juste un, bien, crime, il y a déjà un prof qui est là. S'il y a des profs qui sont assis puis qui attendent puis que c'est pas super le fun, il y a plus de chances. Fait que la relation avec le personnel va être toujours numéro un. Nous, on parle toujours de John Hattie là, au niveau des études internationales là, qui a fait des méga analyses de tout ce qui se passe. Et c'est l'effet réussite numéro un en haut, là. L'importance du lien avec l'élève. Fait que, tu sais, est-ce qu'on a besoin de chercher de midi à 14 heures quand on a déjà des méta-analyses qui nous le disent? Qu'est-ce qui est important pour la réussite des élèves? Non. Est-ce qu'on l'applique sur le terrain et est-ce qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir? Peut-être pas. Là. Il y a des choses qu'il faut regarder de ce côté-là.
André Bernier, président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles. Toujours un plaisir.
Toujours plaisir de venir vous voir.
À la prochaine. Au retour de la pause, Audrey Pinchot s'en vient pour l'Open Mic à Boulevard 102-1. Max Larouche et Catherine Bachand avec vous maintenant dans le Point de Max. Puis je dois vous admettre, là, on était bien en tête à tête, les auditeurs et moi, mais d'avoir quatre Bachands dans ma face...
C'est devenu un threesome, notre affaire.
On peut le voir comme ça, oui. Oui. On va s'arrêter là. On revient dans quelques minutes pour l'Open. Hey, qui aurait cru que la joke de threesome serait venu pas de moi.
C'est... Moi? Ben oui. Moi, j'aurais cru ça, c'est sûr. C'est mon genre de
truc. On revient 10h50. La crédibilité dans cette émission-là,
ça, c'est
messieurs.
Un grave problème. Quand c'est moi la crédibilité, on est dans le trouble.
10h58, on revient.